Le monde n'est ni tout blanc, ni tout noir, mais composé d'une infinité de nuances soumises à toutes les interprétations. Et pourtant, notre tendance à la simplification nous amène bien souvent à penser en termes d'antagonisme, de bipolarité. Alors, Brigitte et Gaston Sylvestre, je vais vous proposer quelques-unes de ces oppositions, de ces bipôles, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Le premier de ces bipôles que je vous propose, c'est l'opposition entre écriture et improvisation. En matière de musique, écriture et improvisation sont-elles si opposées que cela ?
Moi, je dirais plutôt oui. Je dirais plutôt oui, parce que l'improvisation, c'est ce qui se fait en principe sur le moment, bien que ce soit quand même répété et élaboré. L'interprétation, c'est un texte qui existe et qu'on doit restituer dans son intégralité, plus évidemment la sensibilité de l'interprète. Ça, c'est mon opinion à moi.
Gaston, musique écrite, musique improvisée.
Dans un premier temps, je dirais qu'il n'y a pas de différence. En ce sens que quand la musique est écrite, il faut la retranscrire et que c'est l'instant T qui retranscrit cette musique. Donc, chaque interprétation est un moment unique et donc un moment qui peut se rapprocher de l'improvisation. L'improvisation, elle est la plupart du temps très contrôlée, avec des grilles qui sont différentes que du papier écrit, mais les grilles existent de toute façon aussi. Il est rare d'écouter de la musique improvisée par des gens qui ne se connaissent pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours au départ un background de sensibilités qui sont mis en commun pour ce moment-là. Et je ne vois pas beaucoup de différence entre ce moment-là et le moment d'une interprétation. Toutefois, je ne peux pas me prétendre être improvisateur, et je ne suis pas improvisateur, et je serai peut-être incapable de l'être. J'ai à l'heure actuelle une proposition qui me gêne beaucoup, parce qu'elle me met en porte-à-faux, il faudrait que j'improvise. Et je ne suis pas sûr d'être capable d'improviser. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr d'être capable de partager un moment, quelle que soit la grille que l'on me proposerait, et d'avoir assez de background derrière moi pour libérer une espèce de langage automatique ou bien un langage spontané qui me permettrait d'accéder à ça, bien que j'en ai beaucoup envie et que ça me titille beaucoup. Mais je ne me sens pas assez armé ou assez impudique ou assez culotté ou assez je sais pas quoi pour me dire oui je vais commencer l'improvisation. Je pense que l'improvisation c'est une chose qui se travaille depuis très longtemps avec des gens avec qui on a un feeling particulier et à ce moment là on peut élaborer un langage commun. Dans l'absolu pour moi l'improvisation ça n'existe pas puisque ça fait toujours appel à une mémoire antérieure qui fait qu'on peut réagir à tel schéma ou à tel schéma et qu'on peut arriver à libérer une énergie qui correspond à cet instant.
Oui, mais l'improvisation...
Rechercher la note bleue, finalement, c'est de se dire je joue une note, comme disait Miles, et tout est dit dans cette note. Pour arriver à cette synthèse, il faut du chemin et il faut que ce chemin s'appuie sur une culture de communication avec l'autre sur un partage d'idées qui pourraient être communes. Voilà où j'en suis, moi, par rapport à l'improvisation. C'est-à-dire que l'improvisation, c'est par rapport à la musique écrite, je pourrais dire que c'est un deuxième système d'écriture. Ce deuxième système d'écriture est-il plus contraignant, plus libre pour l'interprète ? Moi, je me pose la question.
Pourtant, tout à l'heure, parmi les compositeurs que vous disiez avoir approchés, figurait John Cage. Et dans ses écritures musicales, dans sa composition, il laisse une grande part à l'aléatoire, voire même au hasard. Donc comment est-ce que vous vous êtes saisi de cette part de hasard que Cage vous proposait dans ses partitions ?
Oui, mais Cage, il avait quand même un langage qui est très codifié. Je me souviens quand on a fait Atlas et Crypticalis, par exemple, ou si c'était Postcard from Heaven, qui était pour 20 harpes, il y a un code, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Il y a un devoir à accomplir. Donc c'est déjà, on dirait que c'est une improvisation dirigée. Ce que je voulais dire tout à l'heure, un peu par opposition à Gaston, ou peut-être au contraire aller dans son chemin, je ne sais pas, c'est que dans l'interprétation, dans l'improvisation, on risque de tomber dans des clichés. Et je pense que c'est difficile de sortir des clichés, parce que ça fait partie de notre vie. Tout d'un coup, si vous êtes droitier, si on vous demande de manger de la main gauche, vous allez être complètement perturbé. Si vous improvisez, à ce moment-là, il faudrait gommer tout un passé, toute une éducation musicale, parce que la mémoire, elle est là. Et même si on s'en rend pas foncièrement compte, on va aller, par exemple, pour mon instrument, mettre une harmonisation qui va, par exemple, rappeler Berio, ou qui va rappeler ou Cage, par exemple. J'ai cité Cage par cette œuvre pour 20 harpes qu'on a fait au théâtre de... c'était quoi déjà? Le Palais de Chaillot. Et il y avait donc les 20 harpes comme ça, en échelle. Et ça, c'était travailler avec des étudiants. Il y avait 4 ou 5 professionnels, tout le reste c'était des étudiants. Et donc, c'était basé sur les ragas, raga indien. Eh bien, il y avait une gamme qui était là, une harmonisation de l'instrument qui était demandée pour tel ou tel passage, et on ne peut pas appeler ça de l'improvisation. À l'intérieur de ça, on pouvait mettre l'ornementation que l'on désirait, mais qui tenait compte de certains chiffres sous la portée, qui pouvaient les dire soit de répéter 5 fois, soit de changer le phrasé par 5, 3 ou 7. Il y avait la possibilité du choix, mais déjà l'œuvre, elle était quand même... j'allais dire préconçu.
Au fond, ce que vous dites, c'est que l'art naît de la contrainte, et que quelque part, cette contrainte ou pré-contrainte qui est apportée par l'écriture, la composition, c'est cela même qui vous autorise la liberté de l'interpréter, et que si vous n'aviez aucune contrainte préalable, vous auriez peut-être moins de liberté. Ça me fait penser à cette phrase d'André Gide qui disait justement que l'art naît de la contrainte, vit de lutte et meurt de liberté.
Oui, je le pense à certains côtés. Ceci dit, je me suis trouvée à faire une émission à Radio France il y a quelques années sur des poèmes qui étaient dits par Suzanne Flon, et on m'a dit « tu vas improviser ». Et je me suis dit « improviser sur l'harpe, ça me semble difficile parce que c'est un instrument qui est tellement harmonique, on tombe tout de suite dans la tonalité, etc. » Et quand je suis arrivée au studio, j'ai complètement désaccordé ma harpe, mais comme ça, sans réfléchir à ce qui allait en sortir. Et au fur et à mesure que j'improvisais, je découvrais des nouveaux sons qui étaient complètement étrangers pour moi. Et à ce moment-là, je me suis sentie libérée. Et il n'y avait plus la contrainte de se dire « Mon Dieu, ça y est, je suis encore en train de jouer en do majeur » ou peu importe. Mais il y avait plus cette espèce de peur en même temps de tomber dans une sorte d'académisme avec forcément les contraintes de l'harmonie où on doit retomber sur une tonalité parfaite ou imparfaite. Et là je me suis sentie libérée.
Thank you.
l'écriture et l'improvisation, des compositeurs essayent d'inventer aujourd'hui des systèmes d'écriture ou de notation un peu hybrides. Tout à l'heure, en déjeunant ensemble, on évoquait les partitions graphiques. Vous avez, je crois, déjà interprété ce type de partition. Est-ce qu'il vous semble qu'elles apportent peut-être de meilleurs espaces de liberté entre, justement, écriture et improvisation ?
Oui, je le pense, mais ça a été une mode, à mon avis. Ça a été une mode, par exemple, dans les années 60, on a fait Ketch, par exemple, c'était graphique. Earl Brown... qu'est-ce qu'on a fait comme ça, comme écriture graphique?
Giuseppe Chiari, il y en a plein. Le problème, c'est est-ce qu'on est plus libre ou moins libre? Si vous vous trouvez devant un nouveau schéma, c'est un nouveau solfège qu'il faut assimiler. Alors, la lecture graphique, est-ce qu'elle propose plus de liberté? J'en suis pas très sûr. S'il n'y avait pas de graphisme du tout, alors on ferait appel à autre chose qui pourrait s'appeler vraiment de l'improvisation, sauf que chaque fois qu'on va faire de l'improvisation, il faut mettre des canevas ensemble. Même si on fait partie du free jazz, ils mettent en relation des canevas qui sont peut-être même pas exprimés, mais qui sont sous-entendus, parce que les gens se connaissent parfaitement sur leur mode de fonctionnement.
Moi, j'ajouterais une chose, c'est que si on est parfaitement honnête... ça pose problème quand même, parce que s'il y a écrit par exemple 3 points vers le haut ou à contrario vers la basse, on peut pas ne pas faire ce qui est écrit. Donc c'est pas de l'improvisation, il y a quand même un devoir à respecter. Je pense que là encore, le rôle de l'honnêteté du musicien est en jeu.
Oui, ma liberté là-dedans. Elle est en contrainte de nouveaux solfèges qu'on me propose. C'est des lectures graphiques, ok, mais je suis encore à l'intérieur de mes frontières. On a fait l'expérience, que justement, quand on en parlait avec le centre américain, de rendre possible la création écrite à des enfants. Donc on leur a dit, voilà, c'est tout simple, vous allez réfléchir. Si vous mettez un rond dans la page, ça voudra dire un son qui est long. Si c'est la moitié d'un rond, ce sera un peu plus court. Donc on a inventé finalement un autre solfège, mais qui ne se base pas sur des références mathématiques. Avec des systèmes de hauteur, plus tu écris en haut de la page, plus c'est en haut, plus tu écris en bas de la page, plus c'est grave. Et on va lire la partition comme ça. Et donc, chaque semaine, ils arrivaient, ils avaient fait des compositions jusqu'à ce qu'on se trouve devant un gamin qui avait eu plusieurs feuilles. Et c'est eux qui jouaient la pièce, hein, donc il y avait plein d'instruments et tout. Et puis, il a désigné, il a dit, ben voilà, je vais faire un quatuor. Et donc, il commence à organiser son quatuor, il fait jouer ses copains, et... on a commencé à dire, bien, on va, tu sais, là, tu... Ah non, tu touches pas à mon œuvre. Ah non, j'ai écrit ça, et c'est ça que je veux. Non, mais tu penses que si... Ah non, je veux pas, c'est ça que je veux. Ça veut dire que d'un seul coup, sur cette partition graphique, qui offrait finalement à tous les participants un monde absolument fou de liberté, c'était une contrainte qui était peut-être pire que Quatuor de Mozart. Donc, cette partition graphique, si on travaille avec beaucoup de compositeurs sur une idée graphique, il y aura toujours un compositeur qui va dire « Ah non, mais là, tu n'as pas respecté ce que je voulais. Mais si tu veux que je respecte ce que tu veux, alors écris-le-moi. Si tu me proposes quelque chose, je peux faire ça ou ça. Oui, mais je voudrais que tu fasses ça. Eh bien, je vais faire le contraire. Puisque tu me donnes le choix, pourquoi je me ferai exactement ce que tu veux? Si tu veux que je fasse ce que tu veux, tu me l'écris. Si tu me laisses le choix, alors j'interprète ça à ma manière. Il n'y a pas beaucoup de compositeurs qui travaillent en écriture graphique qui acceptent ce discours. Ils sont tous là pour te dire, ah non, tu ne respectes pas les règles, il faut que tu fasses ça. Et pourquoi il faut que je fasse ça? Tu m'as écrit cette possibilité ou cette possibilité? Je préfère celle-là. Non, moi je préfère celle-là. Ah, dans ce cas-là, tu l'écris. Je n'appelle pas ça l'improvisation, l'écriture graphique. L'improvisation, c'est quand on se retrouve devant rien, pas d'idée préconçue, pas de schéma directeur, et on se jette à l'eau. Alors il y a un groupe qui a fait ça pendant des nombreuses années qui s'appelait New Phonic Art, avec Jean-Pierre Drouet, avec Carlos Alsina, Vinko Globokar et Michel Portal. Ce sont tous des gens qui improvisent. Ils ont fait pendant des années culture du New Phonic Art, Et au fur et à mesure que le temps se passait, il pouvait de moins en moins jouer, jusqu'à ce qu'il fasse des concerts dans les derniers temps où il n'y avait plus une note de musique qui sortait parce qu'ils se paralysaient les uns les autres. C'est peut-être l'apogée, et c'est peut-être la note bleue de Miles Davis, c'est peut-être l'apogée de l'improvisation, c'est-à-dire ne plus pouvoir jouer quoi que ce soit.
Deuxième opposition que je vous propose de commenter, peut-être de désopposer, c'est celle très traditionnelle entre le rythme et la mélodie. Est-ce qu'il s'agit vraiment de deux domaines très différents? Et peut-être, Gaston, dans le domaine de la percussion, on se rend bien compte que ces deux domaines-là ne sont pas si opposés que cela.
Le rythme et la mélodie, est-ce que l'un est dissociable de l'autre? Est-ce que... Dans quelque musique que ce soit, la mélodie n'est pas rythmique. J'ai une conviction, c'est que c'est absolument indissociable. Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est qui est rythmique? Qu'est-ce que c'est qui est mélodique? Une mélodie, si elle ne s'appuie pas sur la rythmique qui lui correspond, n'existe pas. Un rythme qui se mettrait sans aucune mélodie n'existe pas non plus. Il n'y a pas de rythme qui existe en soi, il n'y a pas de mélodie qui existe en soi. Je ne peux pas jouer une valse si je ne mets pas un rythme de valse sur cette musique, sur cette mélodie. Et sur cette mélodie, je peux mettre 150 valses différentes, mais ce sera toujours une valse. Mais si je fais abstraction de toute cette structure, hein, ça n'existe plus. Si j'écoute, par exemple, ou si j'écoute ta ta ti, si je ne sais pas où est mon premier temps, si je ne sais pas où se situe la structure rythmique, mais la mélodie n'existe pas. Donc l'antinomie entre mélodie et rythme, je ne la connais pas. Je connais juste un défaut monstrueux qu'habitent les percussionnistes. C'est l'égalité de tous les coups que l'on joue est d'une difficulté extrême. Donc, on forme des percussionnistes à jouer des rythmes d'une complexité folle sans jamais sentir quoi que ce soit comme pulsation. Résultat, jamais en musique ça se pratique. Jamais. Et qu'est-ce qu'on découvre maintenant? C'est que le percussionniste est totalement arythmique. Ça veut dire qu'il a gommé la pulse. Qu'est-ce que c'est la pulse? C'est la vie. La vie, c'est uniquement une chose qui est pulsée. Si on supprime la pulse de la vie, elle n'existe plus. Si je supprime la pulse d'une phrase mélodique, la phrase mélodique n'existe plus. Et si je n'ai pas une mélodie sur cette phrase rythmique, alors elle est mort-née. Donc pour moi, c'est absolument indissociable.
Pour moi aussi. pour moi aussi.
Et en fait, je pense que vous confondez deux choses. Qu'est-ce que c'est le rythme ? Le rythme, c'est une forme. Le rythme n'est pas la réduction de cette forme à la plus petite valeur donnée. Le rythme, pour moi, c'est une chose qui est très large. Si je fais, par exemple, le début de Convergence de Taïra, il n'y a absolument aucune notion de rythme. Mais c'est pire que ça. C'est une triple spirale. Ça veut dire que finalement, c'est une forme rythmique qui ne dépend pas d'un solfège arithmétique. Et le rythme n'est pas un solfège arithmétique. Le rythme est une forme qui me donne l'idée que sur un espace qui commence à un instant T, qui va sur un autre instant T, qui peut-être fait 3 minutes, me donne une forme rythmique qui est absolument inaliénable. Ça veut dire que si je comprends la musique et que je fais abstraction de cette forme de triple spirale qui s'enroule autour d'un ré, eh bien, je n'ai pas compris la pièce. Mais si je la joue, tout le monde va sentir à l'intérieur de ça un rythme qui est absolument inaliénable, qui est absolument indestructible. La pièce n'est construite que sur ce rythme-là. Mais c'est un rythme qui n'est pas un rythme qui s'apparente à une pulse. Donc, le rythme est effectivement lié à la forme et non pas à la plus petite partie de cette forme. Si j'écoute Stravinsky, j'écoute Stravinsky sur une forme globale. À l'intérieur, il y a une rythmicité absolument découpée au millimètre près.
C'est une polyrythmie.
Qui peut être une polyrythmie, encore je dirais même pas ça sur Stravinsky, c'est pas une polyrythmie, c'est une chose qui se découpe en micro-intervalles et qui me donne une pulsation de vie fabuleuse, comme le final du sacre, ou comme la danse sacrale, ou bien comme l'histoire du soldat. Je peux écrire l'histoire du soldat à 4 temps, mais l'histoire du soldat n'existe plus. Donc la rythmicité d'une phrase, elle est liée dans sa forme générale et non pas dans sa plus petite valeur. Donc le rythme, on peut le trouver à plusieurs étages. Mais une musique qui n'aurait pas une essence rythmique, c'est-à-dire qui n'aurait pas une forme, qui n'aurait pas un devenir dans sa structure, ben je ne vois pas quel intérêt on en ferait. À ce moment-là, ce sont des gens qui se trompent de métier.
Troisième bipôle que je propose à votre commentaire, c'est celui qui oppose traditionnellement le jazz, ou plus généralement toutes les musiques qui sont issues du blues, à la musique classique ou contemporaine. Est-ce que ces deux genres sont si différents que cela, ou bien au contraire plus proches qu'on ne le pense ?
Oh, différents de leur fonction, ils le sont. Différents de leur mobile, et ça j'en suis moins sûr. Mais ils sont différents de leur forme, de leur fonction. Un blues a une entité qui lui est propre. La musique classique a une entité qui lui est propre. En fait, elle s'adresse à quoi ? Elle s'adresse de toute façon aux deux. Elle s'adresse au ressenti de celui qui la joue et de celui qui l'écoute. La sensibilité qu'on peut écouter face à un gospel ou face à une symphonie, je ne sais pas si ça appartient à des mondes différents, je ne pense pas. Donc, ce sont des fonctions différentes, mais pour moi, en tout cas, je ne vois pas de différence. Je vois une différence de technique, mais pas une différence de qualité. Finalement, qu'est-ce qui m'intéresse dans la musique ? Moi, ce sont les gens qui font la musique. Ce sont les musiciens qui sont derrière les instruments et qui me parlent. Mais qui me parlent avec un langage, qui me parlent avec un autre, qui me parlent avec des tambours, qui me parlent avec des... Le fait qu'ils me parlent, ça m'intéresse. Et je ne vois pas de différence. Il n'y a pas de différence de... Je ne dirais pas qu'il y a une culture intelligente et une culture qui ne serait pas intelligente. Je ne vois pas de différence.
Précisément, ça m'amène au quatrième bipôle que je vous propose de commenter. C'est celui qui oppose la musique savante à la musique populaire.
Qu'est-ce qu'on appelle savant ? Je crois que c'est dans notre pays où on a occulté la musique populaire. Musique savante, pourquoi ? Je ne sais pas. Et populaire, pourquoi est-ce qu'elle est populaire ? Parce qu'elle ne serait pas savante, mais quand même, dans toutes les musiques traditionnelles, que ce soit de Bretagne, que ce soit de Provence, que ce soit du centre de la France. Mais il y a une complexité dans cette musique. Elle n'est pas sotte. Au contraire. Et c'était quand même une tradition qui se transmettait comme ça, de père en fils, en petit-fils. Et c'était aussi une musique qui pour la plupart n'était pas écrite, qui se transmettait oralement. Donc les gens avaient une mémoire de ça. Et la même chose que ce qui s'est passé à Bali, par exemple, où vraiment les gens, ils peuvent travailler dans les rizières, faire le ciment, n'importe quoi, mais quand ils se retrouvent au banjar, eh bien ils font la musique ensemble. Alors est-ce qu'on va dire que c'est une musique populaire, ou est-ce qu'on va dire que c'est une musique savante ? Elle est populaire dans le sens où tout le monde la comprend. Alors là, je suis d'accord. Mais c'est une musique qui était extrêmement savante.
On sent bien pourtant aujourd'hui, et notamment dans le domaine de la diffusion, que l'on distingue très nettement ce que l'on appelle la musique contemporaine et ce que l'on appelle la musique actuelle. La musique actuelle étant une musique un peu plus facile d'accès, et la musique contemporaine peut-être une musique un peu plus difficile d'accès, peut-être un peu plus complexe, ou qui nécessite d'être introduit à sa forme et à son histoire. Peut-être au fond, est-ce que ça pose la question de l'apprentissage
Je pense que ça vient de ça. Je pense que ça vient de ça. C'est-à-dire que il y a un apprentissage, en tout cas dans ce que nous avons fait, Gaston et moi, comme parcours de musicien, qui maintenant, voudrait être simplifié si on voit par exemple toutes les émissions Starac. On a l'impression que tout le monde peut devenir chanteur, devenir d'un seul coup un interprète. Simplement parce qu'il a passé 4 ou 5, 6 semaines avec des profs. Je pense que c'est une complète illusion, et on enferme à ce moment-là des jeunes dans un parcours dont ils vont avoir beaucoup de mal à se remettre parce que ça sera voué à l'échec. Ça sera voué à l'échec. Ce qui n'est pas vrai, par exemple, dans le jazz dont on a parlé précédemment, où c'est quand même aussi une culture. La musique africaine, c'est une culture. C'est une chose qui est apprise. Dans tout un petit peu ce qui est, entre guillemets, facile, ça a l'air de dire tout le monde peut faire ça, tout le monde peut gagner sa vie avec ça. Et je pense que ça, c'est criminel, quoi.
Ce qui est curieux quand même, c'est qu'il semble que chacun se plaigne de l'autre, c'est-à-dire que les tenants des musiques savantes estiment qu'aujourd'hui, en matière de diffusion, il n'y en a que pour les musiques populaires, pour les variétés, qu'elles occupent 90% des temps d'antenne, par exemple, et que, à l'opposé, ceux qui aiment ces musiques populaires reprochent que les investissements de l'État et des collectivités aillent donner des sommes considérables pour les opéras pour
oui,
des lieux
sûr.
De culture, et alors que eux n'ont pas les infrastructures et les lieux de diffusion qui correspondent à leurs attentes.
Je dirais que
l'opéra est une culture populaire. Si on veut bien éduquer pour écouter ça.
Mais autrefois, les grands-pères, ils chantaient dans leur salle de bain des
airs d'opéra.
Des airs d'opéra.
Ça veut dire quoi, la
musique populaire ?
Parce qu'ils
allaient au concert et que c'était de la musique à chaque fois vivante et qu'ils ils l'assimilaient, etc. Et puis, c'était une période où les gens chantaient. Maintenant, les gens ne chantent plus. Plus comme avant.
La musique populaire par rapport à la musique savante. D'abord, ça a été une idée judéo-chrétienne. À savoir que au Moyen-Âge et à la Renaissance, les compositeurs de musique savante écrivaient d'une manière anonyme la musique populaire. Est-ce qu'elle était moins savante que l'autre ? Je ne pense pas. Elle était de la même qualité. Quelle est la plus grande qualité de la musique de merde qu'on écoute maintenant ? C'est que ça fait faire bouger des millions de personnes. Si ça fait bouger des millions de personnes, c'est qu'il y a des recettes à l'intérieur qui sont éminemment savantes. On n'emploie pas la même science d'un côté comme de l'autre, mais elles sont de toute façon savantes. La musique savante ou la musique populaire, quelle est la différence ? La différence, c'est qu'on emploie des systèmes d'écriture et des systèmes de communication différents. Mais si je me rapporte au Moyen-Âge, qu'elle soit savante ou populaire, c'est-à-dire de composition dédié à l'église ou profane, c'était la même musique avec la même capacité d'invention. Si je me rapporte aujourd'hui, la musique populaire, elle peut être totalement néfaste, elle peut être totalement nulle, c'est ce qu'on écoute à 99% des cas. Mais si j'écoute Brassens, je ne peux pas dire que c'est la musique populaire. Si j'écoute Brel, je ne peux pas dire que c'est la musique populaire. Si j'écoute cette chanteuse nord, comment elle s'appelle ?
Björk.
Oui. Je ne peux pas dire que c'est de la musique populaire. C'est la musique populaire, c'est évidemment. Mais c'est d'une science absolument incroyable. La musique populaire, ce n'est pas celle qui se trouve dans le supermarché. Ce n'est pas celle qui se trouve dans la quasi-totalité des radios et des DJ. C'est pas ça la musique populaire. La musique populaire, c'est une musique qui est construite. C'est pas une musique de supermarché. Quand c'est de la merde, c'est de la merde. Donc je vois pas la différence. Moi, je vois pas cette différence. Je vois que simplement une différence de marchand qui vous propose des merdes parce que ça leur coûte pas cher. Ils montent ça, au bout d'un an, on passe à un autre Kleenex et puis on n'en parle plus. Ça, oui, ça, c'est une musique dont j'aborde ce système-là. Je veux dire, c'est un système qui est dans lequel on est, hélas, baigné à 99%, mais pour moi, ce n'est pas de la musique. C'est du marchandage, pas plus. La musique, ce n'est pas un Kleenex qu'on jette. C'est une chose qui se respecte, qui s'élabore, qui se fait, que ce soit fait à travers une table, avec des computers, avec un compositeur qui se casse le cul pour écrire ce qu'il a envie d'écrire sur un papier, ou que ce soit un groupe qui se monte pour parler son langage, pour dire ce qu'il a envie de dire avec la force qu'il veut. C'est quand même pas la même chose que d'assister à la tristesse de ce qui se passe sur nos médias pour nous proposer une musique qu'on va jeter demain. Non, c'est pas ça. La musique qu'on jette demain, elle n'existe pas, celle-là. Elle est déjà morte avant d'être née. Donc je ne peux pas parler de cette musique. Je peux parler de la musique qui correspond à quelque chose. Et à ce moment-là, le populaire ou le scientifique,
savoir, c'est bien pareil.
C'est pareil pour moi. Il n'y a pas de différence.
Musique savante ou populaire, elles se respectent et elles se transmettent. C'est précisément de cette transmission dont nous reparlerons demain avec Brigitte et Gaston Sylvestre.
Que vous avez pu écouter au cours de cette émission était extrait de Works for Percussion de John Cage. C'était une pièce pour piano préparée tirée de Amores. Vous avez pu ensuite écouter un extrait d'une pièce de Fausto Romitelli et Paolo Pacini, An Index of Metals, interprété par l'ensemble Ictus. Vous avez pu écouter ensuite un extrait de Jordi Savall, accompagné de son fils, extrait d'un album intitulé Caravaggio, et on se quitte avec une répétition de Brigitte et Gaston Sylvestre autour d'un thème de Georges Apergis.